CNRS, la radio Journée nationale de l'innovation en santé, organisée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et Univers-Science.
Bonjour et bienvenue sur CNRS, la radio en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie, où nous avons installé nos micros dans le cadre des Journées nationales de l'innovation en santé. L'occasion pour CNRS, la radio, de vous proposer une série d'émissions dédiées aux innovations de la recherche pour la santé. Et nous allons nous intéresser à présent plus particulièrement à la façon dont le numérique peut se mettre au service de notre santé. Nous allons découvrir trois exemples très concrets d'outils numériques innovants dont disposent ou disposeront bientôt les médecins pour nous soigner. Alors, autour de la table, il y a Nathalie Bédouin, enseignante-chercheuse en psychologie cognitive dans le laboratoire CNRS Dynamique du langage à l'Université Lyon 2. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec vous, nous découvrirons les logiciels que vous avez développés pour diagnostiquer et rééduquer une forme de dyslexie particulière. On verra ça tout à l'heure avec vous. Également autour de la table, Nizar Warty, maître de conférence en délégation au CNRS. Vous travaillez dans le laboratoire IPAL, qui dépend de la Sorbonne et de l'université Pierre et Marie Curie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, on verra que vos travaux portent sur la perception et plus particulièrement, vous travaillez à la mise au point de lunettes de réalité augmentée pour aider les personnes souffrant d'un trouble de la vision, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Exactement.
C'est vous, c'est ça. Et Frédéric Nataf, également avec nous, directeur de recherche CNRS. Vous travaillez dans le laboratoire Jacques-Louis Lyons à l'université Pierre et Marie Curie. Bonjour.
Bonjour.
Votre laboratoire est un labo de mathématiques appliquées et vous vous êtes retrouvé embarqué dans un projet assez passionnant de mise au point d'un casque pour diagnostiquer les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Une preuve de plus que les mathématiques, ça peut vraiment mener à tout, n'en déplaise à ceux qui y sont allergiques. Alors on va commencer par l'histoire de ce casque qui n'est pas encore sur le marché, soyons très clairs. Mais il pourrait s'avérer salvateur dans bien des situations à l'avenir. Alors lorsqu'un AVC survient, il faut aller très vite, on le sait. Plus on va vite, moins les séquelles ont des risques d'être importantes. Votre casque interviendrait donc dans les tout premiers temps de l'accident vasculaire cérébral. Au moment de poser le diagnostic, expliquez-nous comment il fonctionnerait exactement.
Voilà, tout à fait. Donc le problème avec le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux, c'est essentiellement de caractériser l'accident en question, de savoir s'il est ischémique ou hémorragique.
Ischémique, ça veut dire ?
Alors, ischémique, ça veut dire qu'il y a un vaisseau qui est bloqué. Donc, à ce moment-là, il y a une nécrose. Donc, le sang ne circule plus. Il y a une nécrose des cellules au niveau de cet endroit-là qui crée des dommages dans le cerveau. Et à l'opposé, vous avez les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques où c'est l'inverse. Le sang se répand librement au niveau d'un vaisseau qui a eu un accident, qui est perforé, disons.
Donc, soit il y a une fuite, soit il y a un bouchon.
Exactement.
Et selon qu'il y a une fuite ou un bouchon, le remède est tout à fait différent à adopter.
Et oui, il est complètement opposé. C'est-à-dire que s'il y a une fuite, disons, à ce moment-là, il faut essayer de rendre le sang plus épais. Et inversement, si c'est un accident vasculaire ischémique, il faut au contraire fluidifier le sang. Donc, les médecins doivent attendre d'avoir une image du cerveau pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'un cas ou l'autre. Et donc, il faut attendre. Enfin, cette imagerie ne peut être faite pour l'instant qu'à l'hôpital, soit avec un IRM, soit avec un scanner. Donc, les images sont de très bonne qualité. Donc, pour le médecin, c'est tout à fait ce dont ils ont besoin. Par contre, il y a tout le temps du trajet entre, le domicile du patient et l'hôpital qui est perdu.
Donc des minutes, voire des heures précieuses qui se déroulent entre le moment de l'accident et le moment où on peut établir le diagnostic et commencer à traiter.
Voilà.
C'est là qu'interviendrait l'innovation à laquelle vous participez, ce casque. Alors à quoi ressemble-t-il et en quoi il sert plus que l'IRM ou le scanner?
D'accord. Alors donc tout d'abord, ce casque, c'est important de le préciser tout de suite. Donc il est en cours de développement, pas du tout dans notre laboratoire, mais dans une start-up autrichienne qui est à Vienne. Et donc on a une collaboration, disons, relativement informelle avec cette start-up. Donc concrètement, leur casque se présente comme une sorte de cylindre qui n'est pas très grand, disons, et dans lequel la partie supérieure du cerveau est placée. Et d'un point de vue physique, c'est des ondes électromagnétiques qui sont envoyées et qui permettent de faire une imagerie du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un casque qui est très facilement transportable. Et par contre, une fois que les données sont acquises, il faut une puissance de calcul assez énorme pour faire l'image, donc qui, elle, ne peut pas être transportée. Et donc, c'est là où il y a un nouveau modèle à la fois, disons, économique et technologique qui apparaît. Donc, l'idée, c'est que donc, l'ambulance amène le casque au malade. Immédiatement, les données sont acquises. Ça prend à peu près une minute. Ces données sont envoyées par télécommunication mobile à un supercalculateur qui va former l'image, à peu près, disons, 4-5 minutes. Et après ça, cette image peut être envoyée à l'hôpital ou même directement dans l'ambulance. Et ça permet, pour un certain type d'AVC, de donner les traitements, en fait, même dans l'ambulance, donc extrêmement rapidement.
Vous, en tant que mathématicien, votre contribution à ce travail, c'est montrer qu'il était possible, à partir des signaux captés, de ce type de signal, de les transformer en images avec ces gros calculateurs et les algorithmes qui font tourner ces ordinateurs.
Voilà. Et ce qui est important là-dedans, c'est, surtout là où nous sommes intervenus, c'est le temps calcul. Ouais. C'est-à-dire que au moment où on a beaucoup interagi avec la start-up autrichienne, ils avaient des temps de calcul qui étaient de l'ordre de plusieurs heures pour former une image tridimensionnelle du cerveau. Et avec disons les méthodes qu'on utilise, à la fois d'un point de vue mathématique, algorithmique et les ordinateurs sur lesquels on travaille, on a pu descendre à un temps de 3 minutes, donc qui est tout à fait ce dont les médecins ont besoin. Donc à la fois en urgence, et aussi ce que je voulais te préciser, il y a aussi, une fois que l'urgence est passée, que le patient est à l'hôpital, il y a le suivi du traitement, c'est-à-dire l'effet des médicaments sur l'AVC.
Oui, parce que ce casque est non-invasif par rapport à un scanner. On dit qu'il ne faut pas en faire trop parce que voilà, il y a des irradiations qui sont portées pendant cette acquisition d'images. Alors que là, c'est complètement inoffensif. Ça ne coûte pas excessivement cher à mettre en place. Donc, ça permet un suivi sur le long terme. On peut suivre un peu le traitement en temps réel.
Oui, tout à fait. Donc, au niveau de la nocivité, la quantité de radiation électromagnétique reçue par le malade pendant la formation d'une image est inférieure à celle qu'il reçoit s'il utilise son téléphone portable. Donc c'est vraiment totalement inoffensif. Et ça fait une grosse différence par rapport au scanner, donc qui envoie des rayons X. Et donc on ne peut pas utiliser de manière régulière. On peut l'utiliser en urgence une fois, mais pas de manière régulière. Et quant à l'IRM, c'est une énorme machine, donc on ne peut pas faire ça en continu.
Oui, voilà, on ne peut pas passer sa vie dans l'IRM. Bon, ça a l'air absolument formidable. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y est pas encore?
Alors, il y a deux prototypes quand même qui fonctionnent dans des hôpitaux en Autriche, enfin dans un hôpital en Autriche, qui servent à acquérir des données qui ne sont pas utilisées pour soigner des gens. Au début du projet, on a interagi pas mal avec la start-up autrichienne. Depuis, disons, un an et demi, deux ans, pour des raisons de propriété intellectuelle, on n'a plus d'interaction. Donc on sait qu'ils continuent à travailler très dur là-dessus. Qu'ils y croient toujours, j'espère qu'ils vont bientôt sortir un prototype utilisable pour soigner les gens.
Ce serait quand même une vraie révolution pour le traitement de l'AVC, mais peut-être aussi une nouvelle technologie d'imagerie médicale qui pourrait servir à d'autres choses ensuite, en fait.
Alors, disons que l'idée qui est derrière ce travail, disons, et ce nouveau dispositif, c'est en fait d'être un petit peu l'échographie du cerveau ou éventuellement d'autres parties du corps humain, dans le sens où l'image qui est formée de qualité inférieure, bien inférieure à celle d'un IRM ou d'un scanner, mais par contre l'appareil est transportable, léger, bon marché, et de la même manière qu'un échographe fait des images de qualité bien inférieure à un IRM ou un scanner pour d'autres parties du corps, les médecins aiment bien utiliser l'échographie, pour les raisons que je viens de donner. Et donc là, c'est l'idée qu'il y a derrière ce travail. Et il y a aussi d'ailleurs une start-up suédoise qui travaille aussi sur la caractérisation des AVC, mais cette fois, l'idée, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter les données. Et donc, à ce moment-là, de donner une réponse de type oui, non, c'est ischémique, c'est hémorragique. Mais là, il n'y a pas d'image qui est formée. Et donc, le médecin doit avoir entièrement confiance dans toute la chaîne algorithmique. À aucun moment, il peut savoir si il y a une chance que ce soit vrai ou pas, quoi.
Alors, on aura l'occasion de revenir à ce que ça veut dire concrètement de mettre en place des technologies innovantes comme ça dans la dernière partie de cette discussion. Mais on va continuer de faire connaissance avec chacun des intervenants et puis les recherches précisément qu'ils ont mis en œuvre. Nizar Warti, l'outil numérique que vous développez pourrait venir en aide cette fois à de nombreuses personnes, des personnes souffrant de la DMLA. Donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quels sont les symptômes de cette maladie ?
Alors, les personnes atteintes de DMLA ont des problèmes au niveau de la rétine, au niveau central, plus précisément la fovéa. Donc la fovéa, c'est la partie de la rétine qui nous permet de voir de manière précise et qui aussi nous permet de voir de manière contrastée, parce qu'il y a beaucoup de capteurs au niveau de la fovéa. Et donc, quand on a une atteinte de cette région, on voit un peu plus flou et on voit sombre aussi. Et donc, le problème de ce genre de maladie, donc, les maladies qu'on appelle la malvoyance, en fait, c'est qu'elles ne peuvent pas être réglées simplement avec une paire de lunettes classiques. Ouais. Donc, une lentille ne permettra pas de corriger le problème.
C'est-à-dire que souvent, quand on veut un peu simuler ce que voient les personnes atteintes de DMLA, on a une tache sombre au milieu du champ de vision, avec un peu des contours qui se déforment aussi. Hein, une sorte de le monde qui devient un petit peu plus ramolli, on va dire, les verticales qui commencent à se contorsionner.
Alors, en fait, on a une tache sombre au centre, c'est-à-dire qu'on a une vision centrale qui est vraiment dégradée. Et en plus, un autre marqueur fort, c'est que globalement, on voit une image beaucoup plus sombre, parce qu'en fait, on a beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de signaux qui arrivent jusqu'à notre cerveau. Et donc, ce qu'on propose dans le système Motion Glasses, c'est d'avoir des caméras qui sont sur des lunettes, qui vont capter l'information de l'environnement, qui vont les filmer en temps réel, et en temps réel, les restituer à un écran qui est proche de l'œil. Et de cette manière, on peut jouer sur la luminosité, on peut faire une image plus contrastée, plus lumineuse, et de cette manière-là, exploiter les parties qui n'ont été épargnées de la rétine.
Donc on est d'accord, ce sont des lunettes, elles ont la forme de lunettes, mais par contre, à la place des verres, on a deux écrans, et ce que l'on voit, c'est la réalité filmée et transformée par vos dispositifs.
Exactement. On peut appeler ça de la réalité augmentée, dans le sens où les caméras filment l'environnement, mais on augmente l'image, c'est-à-dire qu'on la modifie, afin d'aider le système de perception. J'aime bien faire la comparaison avec les prothèses auditives. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que, en fait, les prothèses auditives vont essayer de modifier le signal de telle manière à envoyer les informations pertinentes sur les parties préservées de la cochlée et ainsi permettre aux patients d'entendre mieux à nouveau. Le parallèle est assez fort, puisque aussi dans notre système, on a une période d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut que le patient s'adapte à cette nouvelle vision. Donc en plus, à la fois, il doit exploiter sa vision périphérique, ce qui n'est déjà pas facile si vous essayez de le faire. Alors des fois, on essaye justement, quand on s'intéresse à quelque chose et qu'on n'a pas envie que ça se sache, on utilise notre vision périphérique, mais vous voyez bien qu'on n'est pas forcément doué pour le faire. Donc très vite, on se met à faire une saccade pour voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas évident d'utiliser sa vision périphérique. Il y a ça, et en plus, le retour visuel qu'on envoie est un retour qui n'est pas habituel. On n'est pas habitué à voir des contrastes forts qui ressortent. Donc il y a toute une période d'adaptation, exactement comme on a avec les prothèses auditives.
L'idée, ce n'est pas de restituer ce qu'on a perdu, mais d'augmenter ce qu'on a encore pour essayer de compenser ce qu'on a perdu.
Exactement.
Au niveau de l'œil. Alors, du coup, vous amplifiez quoi exactement au niveau de ces images qui sont encore perçues par la partie périphérique de notre champ de vision ?
Alors, la manière dont on converge actuellement, c'est d'avoir plusieurs modes de visualisation. Un des modes qu'on a validé de manière clinique il y a quelques temps, c'était d'avoir une méthode hiérarchique pour faire ressortir certains éléments de l'image. C'est-à-dire que si on augmente toutes les parties de l'image, ça n'aura aucun bénéfice, l'information pertinente sera perdue. Donc l'idée de base, c'était de dire que ce qui est intéressant dans une image, c'est les informations des personnes en mouvement. C'est-à-dire, si on prend les éléments qui sont en mouvement dans la scène, on a des chances que ce soit lié aux interactions sociales et aux gens qui nous entourent. Donc ça, c'était le premier travail sur lequel on a travaillé. Et on a vu que, en fait, les patients étaient capables de mieux interpréter, de mieux comprendre ce que les gens faisaient dans leur environnement. C'est-à-dire qu'ils étaient face à des scènes visuelles. On leur montrait des scènes visuelles avec ou sans notre traitement. Et qu'est-ce qu'on observait ? C'est qu'avec le traitement, ils étaient capables de reconnaître qu'une personne était en train de balayer, de danser. Alors, c'était bien sûr des mouvements assez caricaturaux, mais qui permettaient de classer différents comportements.
Donc, ça permet de mieux percevoir les mouvements. Vous m'avez aussi parlé des distances. Vous m'avez dit que ça permet de mieux apprécier les distances.
Alors, ça, c'est un autre mode sur lequel on travaille actuellement, qui est de se dire... Une autre information qui est pertinente, c'est... Imaginez, vous êtes en train de vous balader dans la rue. Vous naviguez et vous avez besoin à ce moment-là d'être capable très rapidement d'éviter les gens qui sont en face de vous, les obstacles. Et donc là, c'est le nouveau mode sur lequel on travaille, c'est d'augmenter l'information sur les objets qui sont proches et sur lesquels on pourrait avoir une collision. Donc c'est un mode pour l'évitement d'obstacles.
Et puis peut-être plus subtil, mais finalement tout aussi indispensable si on veut garder une vie sociale cohérente et harmonieuse. Vous dites qu'avec ce type d'interprétation d'image ou de projection d'image, ça permet aussi d'établir, de mieux cerner les émotions qui se manifestent chez autrui. Et c'est important de savoir ce que pense ou ce que ressent notre interlocuteur.
Exactement. Alors, j'ai fait donc récemment beaucoup de travaux sur la détection des émotions et notamment une des informations qu'on utilise qui est assez pertinente, c'est le mouvement. On a vu que justement, même pour un algorithme d'apprentissage, si on envoie des informations de mouvement, cet algorithme apprend mieux des émotions fines. Donc, de la même manière, dans notre système, vu qu'il est sensible au mouvement, eh bien, qu'est-ce qu'on observe quand on voit quelqu'un qui, par exemple, va sourire ? Eh bien, on voit que toute une partie de sa face va s'animer et qui va être avec notre système qui met en lumière ce qui se déplace. On va voir beaucoup plus les zygomatiques s'animer, quoi. Et à ce moment-là, donc l'idée, c'est que on va rétablir du lien social entre cette personne qui a des problèmes de malvoyance et son entourage, parce qu'ils vont un peu mieux sentir. Si on voit bien, par exemple, vous connaissez l'invention des émoticônes. Pourquoi on a inventé les émoticônes ? Parce qu'un discours est neutre. Ouais. Et on a du mal à savoir la personne, est-ce qu'elle sourit ? Est-ce qu'elle dit ça sur un ton sarcastique ? Alors, bien sûr, avec la voix, on peut un
peu
l'entendre.
C'est vrai que la voix aide aussi quand même à comprendre les intentions d'une personne.
Mais quand même, avoir un retour visuel et sentir au niveau des émotions ce que ressent l'interlocuteur, ça peut aider, en tout cas, c'est notre hypothèse, ça peut aider à avoir une meilleure intégration sociale.
Ça a déjà été testé sur des personnes qui souffrent réellement de DMLA et quel est le temps d'adaptation finalement à ce dispositif ?
Alors, comme je vous ai dit, donc, on a fait des tests pour l'instant au niveau de retour numérique sur des écrans. Donc maintenant que le dispositif est prêt et qu'il est maintenant portable, donc c'était ça le plus important, maintenant on est à la phase de prototypage où on va pouvoir, et là c'est vraiment la phase qui m'intéresse, pouvoir mettre le dispositif sur des patients et qu'ils puissent évoluer, que ce soit en intérieur, mais aussi en extérieur. Vu que le système est totalement portable, bon après, ça reste encore... il faut quand même un petit sac pour mettre l'ordinateur son sac à dos.
Tout ne tient pas dans les lunettes, hein, parce qu'effectivement, les algorithmes de calcul, ça pèse quand même un petit peu. On peut pas mettre ça dans les branches des lunettes. Hein, ça serait trop...
Alors, pour l'instant, non. Alors, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Bien sûr, sur la simplification des calculs, comment les rendre... plus simple et plus rapide. Ça fait partie des multiples contraintes. C'est des projets qui sont assez complexes parce qu'ils demandent des connaissances en algorithmique. Il y a aussi toute la part hardware, électronique. Comprendre aussi la perception des gens pour ne pas envoyer n'importe quelle information. Donc, c'est des projets qui mettent du temps parce qu'ils sont multi-contraintes.
Qui mettent du temps, il faut convaincre, il faut trouver les financements. Voilà. On aura l'occasion d'en parler dans la dernière partie, mais je voudrais maintenant qu'on entende notre troisième invité. On change de domaine et alors cette fois-ci, on est sur des réalisations concrètes, hein, qui sont déjà, on va dire, sur le marché, en tout cas qui aident déjà des patients réellement. Avec vous, donc Nathalie Bédouin, je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en psychologie cognitive et vous avez développé donc deux logiciels complémentaires. Il s'agit de diagnostiquer et en même temps de proposer des exercices de rééducation à des enfants souffrant d'une forme de dyslexie particulière, la dyslexie de surface. De quoi il s'agit ?
Oui, alors, la première chose à bien comprendre, c'est que la dyslexie n'est pas une pathologie unique. Il peut y avoir plusieurs origines possibles. L'origine la plus connue, c'est une difficulté à manipuler les sons du langage. C'est donc une difficulté qu'on peut détecter relativement tôt. Mais il existe d'autres origines possibles à la dyslexie, et notamment des difficultés à appréhender son environnement visuo-spatial. Alors, il ne s'agit pas d'un problème purement visuel, au sens d'un travail des yeux, par exemple, mais vraiment de traitement qui relève de l'attention et qui repose sur le cortex cérébral. Pour être tout à fait concret, dans le cadre de la dyslexie de surface, on a affaire à des enfants, puis à des adolescents et adultes, qui, devant une scène visuelle complexe, ont du mal à prendre en compte la relation spatiale entre les éléments, c'est-à-dire la position des éléments les uns par rapport aux autres. Ils sont capables de le faire, mais ils ne sont pas spontanément attirés par ces relations spatiales entre les éléments. Et au contraire, ils sont très, très attirés par l'identité des détails. Alors en lecture, ça se traduit par une identification correcte des lettres, ils les connaissent bien, ils les identifient bien dans les mots, mais comme ils ne s'intéressent pas suffisamment aux relations spatiales, ils peuvent les inverser aussi bien en les écrivant qu'en les lisant. Alors pour essayer déjà de prouver que ce type de déficit existe bien chez certains enfants dyslexiques, et ça au départ c'était pas gagné dans la communauté neuropsychologique et dans la communauté orthophonique, eh bien, il s'est agi de réaliser des expériences, et c'était de la recherche fondamentale, pour montrer que ce déficit-là, ces deux déficits-là existent vraiment. Et on s'est aperçu qu'à partir du moment où un enfant avait été diagnostiqué dyslexique de surface par un orthophoniste ou un neuropsychologue, dans 2/3 des cas, il avait ces difficultés visuo-attentionnelles très particulières. Alors, pour que ce soit encore un petit peu plus concret, les enfants dyslexiques de surface ont surtout du mal à traiter, aussi bien pour les écrire que pour les lire, les mots irréguliers. Vous voyez, ce sont les mots très nombreux en français qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Alors, dans une langue comme le français, un enfant dyslexique de surface est particulièrement handicapé par sa dyslexie. Or, jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années, très peu de chercheurs s'intéressaient à cette forme de dyslexie. Donc, du coup, les orthophonistes, malgré toute leur bonne volonté et leur savoir-faire, ne savaient pas quoi faire avec ces enfants. Et le logiciel SIGL essaye de les aider en leur permettant de diagnostiquer les déficits visuo-attentionnels dont j'ai parlé. Et les exercices du logiciel Switchipido répondent directement à la difficulté en proposant des exercices informatisés qui peuvent être intégrés et simplement intégrés à la prise en charge orthophonique. Voilà.
Alors, la détection, donc il y a deux logiciels. Il y a d'abord SIGL, concrètement, qui permet de poser un diagnostic sur le type de dyslexie dont est atteint l'enfant. Concrètement, quels sont les exercices que lui propose le test.
Voilà, ce test de diagnostic. Alors, il est constitué de stimuli hiérarchisés. Alors, c'est un chercheur qui s'appelle Nevon qui a mis au point ce principe qui consiste à présenter aux gens un grand dessin formé de la succession, de la répétition d'un autre petit dessin. Alors, on peut le faire avec des lettres très facilement, dessiner par exemple un grand E majuscule avec des lettres M majuscules, mais toutes petites, qui par leur position les unes par rapport aux autres, donnent un E. Ça s'appelle un stimulus hiérarchisé parce qu'une information est identifiable au niveau local, c'est-à-dire au niveau des détails, c'est les M. Mais il y a une autre information identifiable cette fois si on est capable de prendre en compte les relations spatiales entre les éléments. C'est ce qu'on appelle le traitement de la configuration. Mmh. Pour faire court, c'est le traitement global. Et justement, les enfants dyslexiques de surface ont très souvent beaucoup de difficultés à identifier un grand E formé de petits M parce qu'ils vont percevoir les petits M au détriment du traitement de la configuration.
Donc, ils voient les petits M, mais pas le grand E que ces petits M tracent dans l'espace.
Voilà, leurs yeux les voient, leurs yeux voient tout, mais au niveau attentionnel, ils sont beaucoup trop attirés par l'identité des détails au détriment de la configuration, au détriment du paysage formé par la scène visuelle complexe.
Et c'est par cette caractéristique qu'on imagine qu'il n'y a pas qu'une seule question dans ce test, mais avec plusieurs questions de ce type, on arrive à faire le diagnostic.
Voilà.
Qu'est-ce qui existait avant ?
Alors avant, il existait du matériel expérimental qui pouvait être utilisé par certains orthophonistes en lien avec des chercheurs, mais rien de véritablement étalonné. Et là, l'avantage, c'est qu'on a mis à disposition ce logiciel de diagnostic seulement après avoir constitué des normes, savoir ce que l'on peut attendre d'un enfant non dyslexique à tel ou tel âge, quant à sa capacité à traiter l'information de manière globale ou locale. Et on a donc un étalonnage avec entre 60 et 80 enfants par tranche d'âge de 1 an, entre 6 ans et 12 ans pour l'instant. Donc on va compléter au fur et à mesure avec les âges qui correspondent au collège.
Le deuxième logiciel s'appelle Switchipido. Et alors lui, il propose vraiment des exercices de rééducation. Il se présente comment ce deuxième logiciel ?
Alors le deuxième logiciel suit un petit peu le même principe. Il essaie d'aider l'enfant à mieux réaliser les deux opérations avec lesquelles il est en difficulté et pour lesquelles on peut dire qu'il y a une pathologie sous-jacente à la dyslexie. Donc au lieu de viser directement sa difficulté en lecture, on essaie plutôt d'améliorer chez lui les traitements cognitifs qui ne fonctionnent pas bien et qui ont entraîné la dyslexie. Alors ce sont des exercices sous forme de jeux visuels avec l'écran de l'ordinateur où on amène l'enfant à s'intéresser à la forme générale des objets qu'on lui présente. Ce ne sont pas des lettres justement parce qu'ils n'aiment pas tellement les lettres, hein, les enfants dyslexiques. Ce sont plutôt des dessins d'objets. Et il y a des tâches d'appariement, il y a des tâches dans lesquelles l'enfant doit passer du niveau local au niveau global. Tout ça avec un habillage qui lui présente bien sûr ces jeux de façon ludique. Et implicitement, l'enfant en fait entraîne ces compétences-là, c'est-à-dire le traitement de la configuration et l'inhibition des détails.
Il n'y a qu'à voir la fascination qu'ont les plus jeunes pour tout ce qui est tablette, informatique. On imagine qu'ils ne se font pas prier pour jouer avec cet outil de rééducation. En plus, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça pendant une séance chez l'orthophoniste. On peut mettre à disposition des parents le logiciel en leur avec quand même une surveillance de l'orthophoniste.
Voilà, il y a un contrôle de l'orthophoniste, c'est-à-dire que l'orthophoniste reste à tout moment maître de sa rééducation. Mais à partir du moment où l'orthophoniste achète le logiciel de rééducation, il dispose à vie déjà de la licence et puis des améliorations et des compléments qui sont donnés au fur et à mesure. Mais surtout, il a la possibilité d'installer sur les ordinateurs personnels des parents de l'enfant à domicile les exercices. L'enfant va ainsi pouvoir s'exercer non seulement pendant la séance une fois par semaine avec l'orthophoniste, toute la séance ne sera pas consacrée à ça, et chez lui, par exemple, pendant une période de 2 ou 3 semaines, tous les jours, il pourra être convié à faire l'exercice une vingtaine de minutes seulement, ce qui n'est pas très long finalement, mais de manière un petit peu massée, vous voyez, comme ça, c'est-à-dire sur une période relativement courte, de façon intensive, parce qu'on sait, grâce à des travaux en psychologie de manière très générale, même au-delà du langage, que quand on veut restaurer une fonction cognitive qui ne fonctionne pas correctement, on a intérêt à utiliser ce mode de rééducation-là. Voilà.
En 2 à 3 semaines, on obtient déjà des améliorations, significatives.
Chez des enfants d'âge école primaire, au bout d'une trentaine de séances de 20 minutes, on obtient des résultats vraiment significatifs statistiquement, selon les standards scientifiques, avec non seulement une amélioration des compétences visio-attentionnelles telles qu'évaluées avec le test de diagnostic, mais surtout des améliorations en lecture.
Alors, cet outil est à disposition des orthophonistes depuis 2013, hein,
c'est ça.
M'avez-vous dit.
Oui.
Combien de temps pour le mettre au point et pour qu'il soit vraiment dans les cabinets des orthophonistes ?
Alors, pas mal de temps pour le mettre au point parce que c'est vraiment le fruit de plusieurs années de recherche fondamentale, au moins 8 ans de recherche fondamentale. On peut compter dans tout ça une thèse, par exemple, réalisée par l'étudiant que j'ai encadré, qui s'appelle Luc Keïta, qui maintenant travaille au Canada et utilise aussi ces outils un petit peu plus loin que la France. Ouais. Beaucoup d'étudiants en orthophonie ont aussi participé au recueil de données parce que étalonner un outil diagnostique, c'est pas rien. Et puis, lorsqu'il a fallu évaluer l'impact de la remédiation,
on l'a fait aussi grâce à des étudiants qui m'ont aidé à réaliser l'entraînement dans de bonnes conditions au domicile.
Ouais. Donc, voudrais comparer vos expériences respectives sur ce point précis, sur le temps de l'innovation. Parce qu'au moment où ces innovations émergent, on a l'impression que voilà, l'idée était bonne et que ça a été très vite. Puis on se rend compte en discutant avec vous que c'est quand même un peu le parcours du combattant, au moins pour les financements, pour montrer la faisabilité. Il ne suffit pas d'avoir une idée géniale, il faut encore réussir à concrètement la réaliser. Frédéric Nataf, vous, le temps de l'innovation, vous trouvez que ça va lentement? Vous êtes surpris par la vitesse avec laquelle ces projets émergent et se font?
Disons que l'impression qu'on a, c'est quelque chose qui est latent et puis une accélération au dernier moment, disons, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, les gens travaillent depuis les années 60, en fait, hein, sur l'imagerie du cerveau à l'aide d'ondes électromagnétiques, mais grosso modo sans véritable succès. Et là, depuis quelques années, en fait, on a la convergence de plusieurs technologies qui n'existaient, on peut dire pas, il y a 10 ans. Donc, la miniaturisation des capteurs, leur faible coût, les deux vont ensemble. Les technologies de transmission mobile que tout le monde expérimente avec les téléphones portables. Et les nouveaux algorithmes et les supercalculateurs qui permettent de mettre tout ça en œuvre. Et tout ça, c'est tout nouveau et c'est en train de converger ensemble.
Ça veut dire que même si on avait eu l'idée il y a 10 ans, les technologies n'étaient pas mûres pour qu'elles soient réalisées.
Oui, exactement.
Il faut un peu un alignement de planète hein, quand même. Il faut qu'on ait l'idée, mais il faut aussi que ça fasse partie du champ des possibles et des faisables avec la technologie dont on dispose aujourd'hui.
Voilà. Et il faut aussi qu'il y ait des gens en veille, en quelque sorte. Et donc, c'est le cas du créateur de la start-up autrichienne qui s'appelle M. Tensor et le créateur s'appelle Sergei Semenov. En fait, il a fait une carrière aux États-Unis d'imagerie médicale, disons, dans des centres de recherche hospitalo-universitaires américains, justement en travaillant sur ce type de modalité. Et après ça, il est allé en Angleterre, puis en Autriche. Il a créé cette start-up il y a quelques années, justement parce qu'il a vu que ça y est, le moment était arrivé où on pouvait passer, disons, de recherche scientifique amont hein, pour l'instant un prototype et j'espère demain quelque chose d'utilisable dans des hôpitaux.
Pour revenir, je rappelle donc vous, c'est sur le casque pour diagnostiquer l'origine de l'AVC que vous travaillez, enfin vous y contribuez avec évidemment d'autres. On a compris que c'était une société autrichienne qui travaillait sur le projet. Ce serait pour quand? On en est où? Alors c'est toujours dur hein, de faire des pronostics dans ce domaine, mais il ne faut pas donner de faux espoirs, il faut être quand même un petit peu optimiste. Alors c'est pour quand?
Bon, disons... Pour la société en question, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver bientôt parce que toutes les technologies sont là, parce qu'on a prouvé au moins dans l'ordinateur que c'était faisable. Comme j'ai dit, il y a une autre start-up suédoise qui travaille en utilisant les mêmes modalités physiques, mais avec une autre manière de traiter le signal, disons. Aussi sur la caractérisation des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, ça va bientôt arriver.
Nizar Warty, vous n'êtes pas le seul à travailler hein, sur des lunettes qui permettent de servir de béquille, en quelque sorte, lorsqu'on est atteint de DMLA. Où en sont les différents projets dans ce domaine?
Il y avait depuis un certain temps des projets aux États-Unis, au MIT, qui ont avancé assez bien. Après, c'était une forme de... La modalité de représentation était différente, c'est-à-dire que dans leur cas, ils utilisaient un écran de miniature et on pouvait voir des choses sur sa vision périphérique, voir une transformation de l'image sur la vision périphérique. Actuellement, j'ai rencontré des chercheurs d'Oxford qui travaillent aussi sur leurs propres lunettes. Dans leur cas, l'idée est d'avoir des dispositifs légers et transparents. Donc c'est très design, oui. C'est très joli.
Et c'est très différent aussi de votre approche à vous. Ce sont des lunettes fermées, hein, du coup, hein, pour éviter justement les problèmes de luminosité avec l'extérieur.
Exactement. Le problème, c'est que c'est bien d'avoir un produit qui est design, mais il faudrait qu'il fonctionne aussi un petit peu. C'est aussi intéressant.
Donc, vous ne croyez pas trop dans le projet de votre concurrent. Vaut mieux.
Non, parce que le problème, c'est que je leur ai posé la question, en fait. J'étais les voir, je leur ai dit, mais comment vous gérez le outdoor, c'est-à-dire l'extérieur, quand on est en extérieur, vous faites comment? Quelle est votre formule magique? Parce que moi, je n'ai pas réussi à régler ce problème en ayant des lunettes ouvertes. Parce que l'exemple que je prends, qui est assez facile à comprendre, c'est si vous prenez votre téléphone portable, que vous essayez de le regarder chez vous, vous allez voir que la luminosité va être réglée à un certain niveau. Mmh. Et en fait, la plupart maintenant des téléphones portables sont intelligents, c'est-à-dire qu'il y a un capteur de luminosité. Et quand vous allez en extérieur, la luminosité est très élevée pour compenser la lumière ambiante, en fait, qui est beaucoup plus forte. Et sur un dispositif proche des yeux, on ne va pas pouvoir mettre une luminosité énorme pour compenser la lumière du soleil.
Est-ce que c'est un coup à bousiller le peu de cellules?
Déjà qu'on a des personnes qui sont atteintes de problèmes au niveau oculaire, si on en rajoute, ça va être... voilà. Donc après, la solution sur laquelle je dis pas que c'est la meilleure, elle a aussi des inconvénients, mais je pense que c'est la seule qui paraît à peu près viable et disons... qui, d'après moi, demande le moins d'apprentissage possible aussi. D'accord. Parce que le fait d'avoir un écran en périphérie, on va avoir du mal à mettre ça dans sa boucle perception-action, d'après moi.
Je ne vous ai pas entendu sur le temps de l'innovation. Vous trouvez que ça va suffisamment vite? Concrètement, quand on a une idée un peu novatrice comme ça, on rame pour emmener avec soi les financements, pour monter les start-up qui permettraient de faire aller plus vite les choses?
Oui, moi je trouve que ça va pas assez vite.
Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet de lunettes?
Moi, j'ai commencé en 2011, donc ça fait quand même...
C'est pourtant pas si vieux que ça. Hein.
Oui, mais pour moi, ça me paraît long. Mais bon, c'est parce que peut-être que je suis un peu impatient, mais en vérité, on voit qu'on bloque sur des détails. C'est-à-dire, et je pense que peut-être mes collègues me rejoindront là-dessus, c'est que l'avancement de la technique au laboratoire est plus rapide que la mise sur le marché. Et le problème, c'est que là, on parle de médical, donc de choses... Quand on pense à des patients qui souffrent, qui souffrent et qui voudraient bénéficier des technologies et qui n'ont pas accès, on se dit, c'est quand même dommage de se dire qu'au niveau labo, on ne voit pas en fait, ce qui bloque au niveau technologique. A priori, ça pourrait se faire, mais on en avait un peu discuté. Je pense que ce qui se passe, c'est que c'est le modèle économique. C'est-à-dire que même si au niveau labo, on est capable de faire des choses intéressantes, est-ce que derrière, il y a un modèle économique qui est viable? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont prêts peut-être à faire un peu moins de bénéfices pour qu'une innovation sorte rapidement?
Concrètement, elle coûterait combien, ces lunettes? Vous avez, c'est le genre de question qui vous énerve ou j'ai le droit de vous la poser? Le prix de ce que vous imaginez?
Non, je pense que c'est important. Et en fait, je me suis basé sur ce qui se fait à peu près dans les prothèses auditives. Moi, je pense qu'un prix à 2000 euros serait un prix acceptable pour le patient et accessible surtout. Parce qu'il ne faut pas qu'un dispositif comme ça devienne un dispositif d'élite qui serait à 15 000 euros et qui pourrait toucher qu'une sous-partie de la population. Mmh. À 2 000 euros, il serait accessible. Et en fait, je pense qu'il y a moyen vraiment d'atteindre ce prix-là. Et bien sûr...
Sauf que les marges sur un tel produit seraient bien moindres que les lunettes classiques qu'on connaît avec les verres, où effectivement, on le sait, les marges sont bien plus importantes que...
Voilà.
Donc, même si elles sont moins chères que 2 000 euros, leur prix de revient est...
Bien sûr. Le problème, c'est la marge. En fait, j'ai mis des années à comprendre ce petit détail parce que je n'étais pas vraiment concentré là-dessus. Et je me suis rendu compte que finalement, un dispositif comme celui que je proposerais, à 2000 euros, il aurait une marge assez réduite. Alors que si on prend une prothèse auditive ou des lunettes, alors c'est encore plus pour des lunettes avec des verres classiques, là, les marges sont quand même assez importantes.
Voilà. Alors, je voudrais entendre nos deux autres invités, parce que finalement, c'est vrai que pour le moment, on a parlé innovation, on a parlé du bien-être des patients à qui elles serviront. Mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir combien ça coûtera. Et est-ce que parfois, c'est un frein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rendre un peu à la réalité économique. Est-ce que ce sera finançable? Et c'est un peu ce qui détermine qu'on vous aide ou pas, en tout cas pour les financements privés, on imagine. Alors, comment vous gérez ça? Le rapport au coût de vos innovations?
Oui, je vais peut-être répondre rapidement pour les deux logiciels. Bon, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres que ceux de mes collègues. C'est des choses moins onéreuses, mais qui demandent quand même de payer un ingénieur en informatique pour pouvoir rendre le logiciel vraiment utilisable par les professionnels et agréable aux jeunes patients. Alors pour ça, je me suis associée à une petite société qui s'appelle Gnosia et qui est dirigée par un orthophoniste. C'est une société qui diffuse des outils déjà de ce type-là, ainsi que des formations qui accompagnent ces outils. Donc l'idée me paraissait bonne de travailler avec eux parce que leur philosophie, c'est aussi de ne pas diffuser du matériel très cher. Et je peux aussi donner le prix. Le logiciel, c'est 88 euros. D'accord. Ce qui n'a rien à voir avec le prix de beaucoup d'autres matériels du même genre. Et c'est une licence à vie avec des améliorations. Et notamment, on va sans doute très rapidement diffuser une version avec des lettres en arabe pour qu'il y ait une utilisation un petit peu plus large de ces outils.
Bien sûr, voilà. Ça peut se développer et se décliner, avec toutes les écritures.
Voilà, donc les pour le futur qu'on imagine.
Frédéric Nataf, le rapport au coût de ces innovations.
Alors, en ce qui concerne donc, l'imagerie du cerveau par des ondes électromagnétiques, le matériel lui-même, en fait, sera bon marché, parce qu'essentiellement, c'est un cylindre en métal bien usiné, c'est pas tellement plus. Après ça, pour former l'image, il faut envoyer les données sur un supercalculateur et on peut déjà louer en fait, des heures de calcul sur les supercalculateurs, soit de bulles qui construisent ordinateurs, soit des grands du web comme Google, Amazon, etc. Et grosso modo, on peut estimer qu'un examen coûtera à peu près dans les 300 euros. Enfin, on pourrait estimer ça comme ça. Par contre, au niveau du financement amont, les choses sont un peu contradictoires parce que, bon, grâce à l'ambiance des startups, des financements privés, etc., quand quelqu'un a une idée, en fait, il peut avoir accès à de l'argent relativement facilement, disons, enfin, s'il met l'énergie, donc c'est le cas de ce qui a été fait par le créateur de la startup autrichienne. Et par contre, après, le système se bloque un peu parce que, justement, pour que les investisseurs aient un retour, ils exigent des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle, etc., qui finalement ralentissent la relation avec la recherche.
Et, oui.
Y a un ralentissement qui est dû à l'accélération.
Ralentissement dû à l'accélération, c'est sûr.